Bonjour à tous, nous sommes de retour avec le magazine politique. Alors vous connaissez le système, ce ne sont pas des chroniques de 2 ou 3 minutes, mais c'est 35 à 40 minutes avec un invité qu'on a envie de vous faire découvrir plus en détail, mais également sa commune, dans le cas présent, sa commune qui est Audergame. Nous avons aujourd'hui Didier Gossoin, bonjour.
Bonjour.
Très heureux de vous recevoir. Alors on vous a déjà reçu comme ministre, effectivement, vous avez une carrière politique mais vraiment très importante, mais... aujourd'hui, on avait envie de connaître l'homme Didier Gossoin et sa commune Audergame. Alors je passe la parole à notre ami Grosjean pour effectivement une présentation de notre invité.
Mais oui, le portrait du bourgmestre Didier Gossoin est né le 9 juillet 1952 à Ixelles. Personne n'est parfait. Et il est titulaire d'un régendat en français et histoire. Il est également licencié en sciences du travail à l'UCL. Alors ça a été, je dirais au départ, un enseignant. Il a enseigné quelques années avant de lancer, avec des amis, une société de vente de pralines. Ça, c'est très bruxellois.
Et un bureau... délicieux aussi. C'est dommage qu'il n'ait pas continué, parce qu'aujourd'hui, on aurait des pralines alors.
Et un bureau de comptabilité et de fiscalité, ce qui fait que M. Gossoin, quand il parle chiffres, il sait de quoi il parle. En 1976, il décide de se présenter aux élections communales à Audergame. Amoureux de Bruxelles, il rejoint les rangs du FDF. C'est tout à fait logique, évidemment. À l'époque, dit-il, c'est le seul parti urbain qui surtout ne fait pas de l'idéologie une obsession. Voilà. Un an plus tard, il devient le plus jeune échevin bruxellois. Il est en charge de la jeunesse, de la culture et ensuite de l'urbanisme. Alors, évidemment, on a parlé de cette carrière communale, mais il y a surtout et peut-être avant tout une carrière régionale. Et sur le plan régional, Didier Gossoin devient secrétaire d'État à l'environnement, au logement, à la conservation de la nature en 1989. Avant de devenir ministre, toujours au sein du même exécutif, en 1991. Il sera alors ministre jusqu'en 2004. Il sera ministre bruxellois de l'économie, de l'emploi, de la formation, de la santé, du budget et de la fonction publique de 2014 à 2019. Je crois que c'est 5 années qui ont marqué les esprits, effectivement. Et puis, il est aussi, ça c'est important à le rappeler, il est bourgmestre d'Audergame depuis 1995. Selon ses fans ou ses proches, Didier Gossoin gère sa commune avec efficacité. Il s'agit d'ailleurs de la seule commune bruxelloise qui ne fait pas varier les impôts. Les taux d'imposition sont les plus faibles de la région. Et Audergame peut se vanter d'avoir toujours un budget en équilibre, tout en offrant à ses habitants une qualité de vie. Alors quel est le secret de Didier Gossoin? Parce que ça, c'est la quadrature du cercle. Vous ne coûtez rien et vous offrez la qualité de vie.
De la rigueur et le refus de dépenses qui sont souvent, je pense, des dépenses somptuaires en politique. Par exemple, il n'y a pas de cabinet de bourgmestre, il n'y a pas de voiture personnelle, il n'y a pas de frais de réception. Il y a donc une gestion à la spartiate et pas question de comment dire, se perdre dans des dépenses qui ne sont pas justifiées. Ça me paraît être l'essentiel. Moi, j'ai toujours dit que quand on est responsable politique, on hérite de l'argent donné par le concitoyen et donc on a l'obligation d'une grande rigueur et de dépenser, je dirais, de manière chiche, mais bien dépenser et pas, je dirais, de se faire mousser soi-même politiquement avec l'argent des autres.
Alors, on le fait avec tous les bourgmestres, on va le faire avec vous. Vous êtes boulevard du Souverain et il y a un martien qui arrive tout d'un coup à la commune d'Audergame et vous devez présenter votre commune. Qu'est-ce que vous lui dites ?
Ben, je vais lui dire qu'il aura l'impression d'être en ville, mais qu'en réalité, il n'est pas en ville. Effectivement, à 100 ou 150 mètres de là, on est dans la forêt. On est dans un cadre, je dirais, rural. Ce qui nous a toujours fait dire que nous étions un peu un village dans la ville. Et que s'il veut venir visiter une ville, c'est pas vraiment Audergame. Sauf qu'à Audergame, il a des aspects de la ville et des aspects d'un milieu plus paysager.
Donc c'est les bons côtés, la ville sans
Absolument.
Les mauvais côtés. Et Audergame a quand même beaucoup évolué, si je puis dire, depuis 1995. Il y a notamment eu le projet de la place communale, peut-être on peut rappeler, parce que finalement il n'y avait rien. C'était un peu un manque, si je puis dire, au sein de la commune, cette place communale.
Oui, on a un certain nombre d'immeubles qui datent. Hein. Il faut savoir qu'une commune comme Audergame était une commune pauvre de la région bruxelloise. Elle n'existait pas encore. Par contre, une commune riche, c'était Scarbeck. Et on le voit dans les bâtiments, par exemple. On voit que dans les écoles, c'est des bâtiments qui sont beaucoup plus recherchés artistiquement. Et donc, on a ce côté un peu d'une population pauvre dont il a fallu faire évoluer le bâti, de toute la Chaussée-d'Ouave notamment.
Et alors le projet de place communale, ça a dynamisé tout le quartier finalement.
Ça continue à dynamiser d'ailleurs, puisqu'il y a encore un projet qui est en extension. Un peu plus loin du côté de la Chasse Royale, il y a vraiment tout un quartier qui s'est reconstruit, des centres commerciaux, des nouveaux logements, etc. Donc c'est vraiment l'axe à réhabiliter.
Donc c'est vraiment une commune qui est en pleine évolution sur le plan urbanistique.
C'est une commune en évolution dont la population continue à croître légèrement, il ne faut pas dire que ça soit de trop, et qui, grâce à cette alchimie et cet équilibre, parvient à avoir une assiette fiscale qui est suffisante au point de ne pas devoir augmenter l'impôt.
Eh bien voilà, on a découvert Auderghem pour ceux qui ne connaissaient pas Auderghem, et on a envie d'aller s'y balader, et vous saurez dans quelques instants pas mal de lieux, d'indications pour pouvoir justement découvrir Auderghem avec des superbes endroits que certains connaissent, par exemple le Rouge Cloître, mais on y revient dans quelques instants. D'abord, une petite pause musicale, à tout à l'heure. Nous l'avions promis, nous sommes de retour avec Didier Gossoin, bourgmestre d'Auderghem, et sur des sujets d'actualité passionnants, et entre autres peut-être la mobilité, Paul Grosjean.
Et c'est un peu incontournable dans une commune comme celle d'Auderghem, de la seconde couronne, effectivement, qui est en première ligne finalement de cet afflux d'automobiles, et notamment via le viaduc. Alors, Monsieur Gossoin, comment voyez-vous cette période transitoire? Parce que les riverains, les habitants de votre commune, seront peut-être les premiers impactés par la suppression de ce fameux viaduc.
Le viaduc, justement, on parle de viaduc et de suppression de viaduc ailleurs. Mais ceux qui ne connaissent pas, c'est l'autoroute de Namur, effectivement, qui plonge sur Bruxelles. Et cette autoroute, au fait, qui continue à travers des quartiers habités, de bureaux ou d'habitations résidentielles.
Donc je dirais qu'en tant que responsable régional, vous êtes évidemment sensible à l'idée qu'il faut moins de voitures qui rentrent dans la ville. Mais en tant que responsable communal, est-ce que vous n'avez pas peur que vos habitants soient impactés par la suppression du viaduc Herman de Brou?
Que du contraire. Assez curieusement, lorsque le viaduc a dû fermer parce qu'il y a eu un incident grave, c'était le calme plat à Auderghem, puisque les voitures ne savaient pas rentrer. Ça veut dire que si, à un moment donné, on gère mieux les entrées de ville, il y a moins de voitures qui s'est entrées, et les flux, l'importance des flux sont moindres, et donc forcément, les traversées de la ville et de la commune sont plus doux. Donc au contraire, le réaménagement des entrées de ville est une manière d'augmenter la qualité de vie en ville. On ne peut pas à la fois assister à des départs de la classe moyenne vers l'extérieur et en même temps croire qu'on va garantir les mêmes politiques publiques. En réalité, l'appauvrissement de Bruxelles, c'est la fuite de la classe moyenne. Donc, pour maintenir la classe moyenne...
Il faut une qualité de vie.
Il faut une qualité de vie. Il faut une qualité de vie dans ces rues, il faut une qualité de vie en termes de pollution. Et enfin, on parle de la CAP 26, tout le monde dit qu'il faut changer ses habitudes. Une des manières de changer, c'est de faire des choix responsables. Lorsqu'on peut utiliser des transports en commun, lorsqu'on peut faire du covoiturage, il faut le faire. Et donc notre rôle à nous politiques, c'est d'encourager et d'inciter les citoyens à aller vers ces comportements, je disais, responsables. Enfin, je dirais aussi, c'est qu'il n'y aura aucun changement, je l'ai toujours dit, qui se fera tant que le gouvernement fédéral ne met pas en place le RER, tant que la région Wallonne ne met pas en place des parkings de dissuasion gratuits, pas comme à Louvain-la-Neuve, des parkings de dissuasion gratuits aux abords des gares, tant que cela n'est pas fait. Donc on parle de l'horizon 2030-2035.
Vous avez tout à fait raison d'insister sur les parkings de dissuasion gratuits, sauf que ça ne plaît pas aux écolos. La notion de parking gratuit, ça leur donne des boutons.
Hein. Oui, mais bon, ça, ils peuvent avoir des boutons, c'est leur problème, mais il faut être cohérent. On ne peut pas faire la chasse à la voiture. Il faut offrir des alternatives, il faut comprendre qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se passer de la voiture, et dès le moment où on est dans un parking de dissuasion, il faut une liaison rapide de transport en commun pour aller vers son lieu de travail. C'est tellement évident. Si on met, regardez le parking de Louvain-la-Neuve, qui est à côté de la gare RER, ben, ce parking est payant, il est quasi non fréquenté, évidemment. Donc il faut que ce soit une gratuité liée, bien entendu, à l'usage du train ou du métro.
évidemment une façon très efficace d'éviter les embouteillages, c'est de venir habiter à Auderghem, tout simplement. Mais est-ce que le mètre carré est accessible dans votre commune ?
Nous ne sommes pas la commune la plus chère, mais soyons clairs, c'est plus cher que dans les alentours de, je ne sais pas, moi, Jean-Blouis, ça c'est certain. Mais on n'est pas la commune la plus chère. Nous avons un argument, c'est que nous avons l'impôt immobilier le plus bas.
C'est vrai.
Et qui est très sensible, de l'ordre de 10, 15, 20, 30 ou 40 ou 50% par rapport à d'autres communes. Ça veut dire que chaque année, ben, c'est un gain de 500, 1000 euros d'impôts que l'on paye en moins au niveau de l'immobilier.
Mais la commune est en recherche de nouveaux habitants.
Oui, et nous avons une légère augmentation de ces dernières années. De pas 1%, il n'en faut pas trop, parce qu'il faut gérer cet afflux de population en termes de demandes d'écoles, de crèches, etc. Donc il ne faut pas arriver des arrivées massives de nouveaux habitants, on ne le veut pas. Mais une légère augmentation, c'est aussi la garantie que notre assiette fiscale croît. Il y a plus de gens qui contribuent à des services qui coûtent de plus en plus cher, hein, ne fût-ce que par l'indexation des salaires.
Mais il y a du foncier encore disponible ?
Ah ben, il y a du foncier parce que nous avons autour de l'hôpital Chirec, qui est vraiment un travail que j'ai mené pour faire venir Chirec et toutes les infrastructures. Et il y a là des hectares et des hectares d'une ancienne gare de triage de la SNCB qui peut être exploitée. Il ne faut pas aller trop vite, mais ça veut donc dire que nous avons là encore de la réserve foncière.
Mais est-ce que les gens qui travaillent au Chirec à Delta, ils s'installent à Auderghem, on constate ça ?
Oui.
Ah, ça c'est bien.
Alors. Ah oui, oui, oui. Moi j'ai des médecins qui maintenant habitent Auderghem. J'ai créé, quand j'étais ministre de l'Environnement, une espèce de grande promenade verte. Il y a énormément de gens qui viennent au boulot en vélo et qui peuvent donc aller travailler au Chirec sans utiliser sa voiture.
Effectivement, il y a deux points qui ont été soulevés. Ça vaut la peine de savoir que le Chirec, c'est un hôpital important, qui est regroupé entre autres Cavel et d'autres institutions, et qui est tout à fait up-to-date, capital pour les habitants. C'est une sécurité aussi, je pense. Et cette promenade verte dont on parle, dont vous venez de parler, Didier Gossoin, ça c'est quelque chose de fabuleux. J'encourage tout le monde à aller se balader par là, à vélo, à pied, et vous pouvez aller d'une commune à l'autre.
Absolument, ministre de l'Environnement. Et c'est vraiment une liaison depuis le campus universitaire jusqu'à Kreinem, en traversant sans problème des voiries, comme le boulevard du Souverain, parce qu'on a recréé des passerelles, etc. Et donc c'est une liaison fortement fréquentée par les vélos et par les piétons, et c'est une fort bonne chose.
Et super agréable, dans la verdure, on surplombe d'autres...
On a eu un bon ministre de l'Environnement, voilà.
Voilà, et ça existe depuis longtemps, mais allez découvrir ou redécouvrir cette promenade. En attendant, on va écouter de la musique, on va se détendre un peu pour pouvoir réfléchir à ce qui vient d'être dit, et on revient sans doute sur le sujet du patrimoine. Nous sommes de retour avec Didier Gossoin. Rebonjour, Didier.
Rebonjour.
Alors, on a parlé de choses intéressantes sur la mobilité, déjà pas mal dessus, le logement et autres. Si on revenait quelques instants sur le Chirec, Paul Grosjean, parce que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel à Bruxelles.
Et peut-être que dans 200 ans, on dira, mais ça c'est le patrimoine bruxellois, on dira que voilà le Chirec, parce que c'est aussi un aspect architectural, c'est un geste architectural fort dans la commune, et ça crée évidemment une activité économique énorme, monsieur le bourgmestre.
Absolument. Lorsque j'ai proposé à Cavel un espace de localisation, initialement il souhaitait aller sortir de Watermael-Bafors à Chaussée de la Hulpe. J'ai fait remarquer qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens de communication. À Delta, il y a le métro, il y a le train. Il y a des lignes ferroviaires fréquentes qui passent par là. Il y a l'arrivée de la E411. C'est un terrain que personne n'imaginait étant sur la commune d'Auderghem. C'est l'ancienne gare de la SNCB, de triage. Donc il y a des hectares et des hectares à exploiter. Alors c'est un hôpital, c'est un centre d'urgence, c'est important. Hein.
Oui.
Il vaut mieux, quand on a un problème, arriver aux urgences en 2 minutes qu'en 10. Il y a un appart-hôtel, il y a une galerie commerçante, une qui va se terminer encore, il y a une maison de repos, il y a des logements étudiants, il y a des logements qui vont se construire. Donc c'est vraiment une réserve foncière qui est très profitable pour nous, en termes de services et en termes de revenus aussi.
Oui, donc c'est vraiment une réalisation très forte au sein de la commune. Les terrains appartenaient à la SNCB ?
Ça appartenait à la SNCB et donc on a veillé à faire en sorte, ça c'est l'intérêt d'être parfois à la région et à la commune, à ce que la région rachète cela et que la région revende alors au consortium pour pouvoir faire le développement immobilier.
Alors, on va parler quand même du patrimoine. Et il y a quand même un lieu qui est magique à Auderghem, c'est le Rouge Cloître. Et je crois que Didier Gozouin connaît vraiment très bien le Rouge Cloître. Il s'en est même occupé directement.
Ah, Rouge Cloître, c'est un endroit magique, superbe. On vient de terminer d'ailleurs la rénovation du prieuré, donc le bâtiment principal de l'abbaye, qui va servir de lieu de culture, de restauration. C'est un endroit où il y a une ferme pédagogique, où il y a des ateliers d'artistes, des lieux d'exposition, le centre d'art de Rouge Cloître. Mais c'est en même temps un lieu aux portes de la forêt, avec tout ce que on peut imaginer comme culture. Il y a un livre qui est un grand succès, c'est Les Téméraires, qui a été écrit par un écrivain, historien flamand. Et c'est quand même heureux de lire dans Les Téméraires qu'on parle beaucoup d'Auderghem et de Rouge Cloître, puisque c'est là qu'allait Charles Quint. C'est là qu'on on a imaginé des tapisseries qui se trouvent au Louvre aujourd'hui, les Maximiliennes, hein, grandes tapisseries, qui retracent des scènes de chasse, 12 scènes de chasse, à Rouge Cloître, et on retrouve les lieux de Rouge Cloître. Donc on a un patrimoine qui est évoqué jusque en France de manière internationale. Enfin, on a quand même l'un des plus grands primitifs flamands, Hugo van der Goes, qui a vécu à Rouge Cloître et qui est mort à Rouge Cloître. C'est quand même le début de tout ce qu'a préfiguré la peinture flamande, de Rubens et autres. Donc on a, oui, un passé culturel fantastique. Et si on n'est pas sensible à la culture, on est sensible au bois, à la forêt, au calme, aux étangs de pêche, etc. Et puis on va un peu plus loin, on a Val-Duchesse, qui est aussi un lieu d'histoire. Oui. Je rappelle c'est là qu'on a négocié les traités de Rome, donc la mise sur fonds baptismaux de l'Europe.
Il y a le château Sainte-Anne aussi.
Et il y a le château Sainte-Anne, il y a le château de la Solitude. Oui. C'est assez logique, hein. Nous étions les faubourgs de la ville, et donc des familles riches allaient à la campagne se construire des châteaux, c'était évidemment à Auderghem.
Et puis le patrimoine, c'est aussi la forêt de Soignes. Est-ce que sur la commune d'Auderghem, il y a une partie de la forêt ?
Énorme, hein. Oui, bien entendu. Vous savez qu'Auderghem va jusqu'à Jésussec, hein, Notre-Dame-aux-Bois. Voilà. D'ailleurs, le dernier restaurant de tous les restaurants de Jésussec, c'est Auderghem. C'est Auderghem. Non, le dernier, je crois que ça s'appelle, je ne sais plus d'ailleurs.
Enfin,
le Bienvenu, non, c'est pas le Bienvenu. La Limite.
Ah, pardon.
La Limite apporte bien son nom. Et la petite rue à côté qui longe l'autoroute jusqu'au pont qui traverse l'autoroute, c'est la rue des Bûcherons, c'est sur Auderghem. Donc ça va très loin, Auderghem, et bien évidemment c'est de la forêt.
Et donc Jésussec, pour ceux qui ne vous situent pas tout à fait, c'est tout près du Carrefour Léonard, en fait.
C'est au-delà du Carrefour Léonard, absolument.
Et il y a de très bons restaurants, d'ailleurs.
Absolument.
C'est très convivial à l'image d'Auderghem.
Et il y a aussi un garage avec une marque de voiture bien connue, que l'on voit apparaître, des toutes petites voitures de ville. Hein,
et qui est sur notre territoire.
Qui est sur Auderghem, effectivement. Alors, ce patrimoine, on peut encore en parler longtemps. Il y a évidemment le Rouge Cloître, mais qui est accessible à tout le monde. Le Val-Duchesse, évidemment, c'est plutôt réservé à des manifestations.
Bien qu'on essaye de négocier qu'une partie de Val-Duchesse puisse nous être cédée de façon à faire une promenade le long de la Wallu à ciel ouvert. Plutôt que se promener au boulevard du Souverain, demain, on pourra se promener dans une partie de Val-Duchesse. Et nous sommes sur le point d'aboutir.
Mais Val-Duchesse, c'est la donation royale ?
C'est la donation royale.
C'est la donation.
Mais voilà, vous venez d'apprendre quelque chose, que bientôt, un nouveau but de promenade, peut-être une partie de Val-Duchesse, et tout ça toujours grâce à notre invité, Didier Gossoin, et à toute son équipe de la maison communale, de la commune d'Auderghem.
Et du centre culturel aussi, bientôt.
Le centre culturel, bientôt, mais on ne va pas déjà annoncer ce qui va se passer. Dans quelques instants, découverte d'un nouvel invité. De la musique, tout de suite. Toujours le magazine politique avec Didier Gossoin comme invité aujourd'hui, le bourgmestre d'Auderghem. Il nous a déjà parlé de choses qui nous ont permis de découvrir un peu mieux, de mieux comprendre la commune d'Auderghem. Mais maintenant, nous allons découvrir son invité. Vous savez que chaque bourgmestre peut inviter effectivement quelqu'un qu'il choisit par rapport à ses compétences, par rapport à sa qualité. Didier Gossoin, pourriez-vous nous présenter brièvement votre invité et les raisons pour lesquelles vous l'avez choisi ?
On a beaucoup évoqué le patrimoine de la commune d'Auderghem, mais il est aussi une activité importante, essentielle, connue de tous, je crois, au-delà de la commune d'Auderghem. C'est son centre culturel d'Auderghem, qui a un nombre d'abonnés très important. C'est un des théâtres qui a le plus d'abonnés et qui a une distribution originale aussi, parce que nous avons un produit unique en région Bousselat. C'est la raison pour laquelle je souhaitais qu'André Bassichet, qui est le directeur du centre culturel depuis 22 ans, puisse m'accompagner aujourd'hui. Je vous remercie de l'avoir accueilli.
Avec grand plaisir, parce que c'est vrai que c'est un pôle culturel de la région bruxelloise. Alors là, vous êtes là quand même depuis plus de 20 ans.
Ouais.
C'est quand même pas mal.
C'est pas mal. Hein.
Français ? Non.
Non, pas français, mais d'origine italienne même.
D'origine italienne.
Voilà.
Alors voilà, la programmation dont parlait monsieur le bourgmestre, c'est quoi en fait le pitch du centre culturel ?
Bah, c'est son image. L'image est véhiculée par, comme disait monsieur le bourgmestre, par Paris Théâtre, qui est un cycle qui amène des pièces parisiennes, françaises de manière élargie. Mais chaque saison, voilà, on a 7 spectacles, 6 représentations. Ce qui fait 42 représentations, c'est tout peu dans une saison, hein. c'est très très peu. Mais on a aussi cet apport de promoteurs qui nous choisissent parce qu'on a une équipe qui fonctionne bien, parce qu'on a une bonne régie, parce qu'on a un lieu accessible, qu'on a un parking. Au contraire de certains théâtres qui ne sont, mais je m'empresse de le dire, non pas des concurrents,
non.
Mais on fait partie d'un panorama culturel assez vaste de ce côté-là de Bruxelles et on défend notre place.
Je crois que le bâtiment a une 50aine d'années. Si
oui, 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 oui.
Et combien de places dans la grande salle si
Alors la grande salle c'est 665. Pour s'arrêter à un chiffre
précis,
particulier. Oui, 665 places. Nous, avec notre programmation, on joue pas à guichet fermé, mais comme le disait M. Gozoin, il est clair que l'abonné occupe 60% de la salle et le reste est fait de places individuelles comme tout autre théâtre.
Et il y a une plus petite salle également.
Alors on a une petite salle c'était un foyer qu'on a réajusté. Et on a une salle de 100 places qui rencontre un vrai succès parmi les théâtres amateurs. L'ABCD, cette fameuse association de théâtres amateurs, y vient fréquemment.
Mais la programmation, c'est 100% théâtre ou il y a du musical?
Non, comme je disais, il y a des tas de promoteurs. Alors, il y a du théâtre, il y a beaucoup de one-man show. Il y a une grosse boîte de production qui a vu le jour il y a 5 ans, là maintenant, qui nous envoie de temps en temps des spectacles. Il y en a d'autres qui vont à Forêt Nationale ou au Cirque Royal parce que ça demande plus de public. Mais on a des Olivier de Benoît ou Jérémy Ferrari qui a débuté, des choses comme ça. Et puis on a du théâtre aussi et on a des productions belges parce que ça ne se limite pas simplement aux Français. Je rappelle, 42 jours d'occupation, c'est pas grand-chose sur une année.
Non.
On a la Comédie de Bruxelles, qui est gérée par Daniel Hansens, qui nous rend visite.
C'est du boulevard, plutôt.
2 à 3. Alors, oui, c'est du boulevard, mais le boulevard a tendance un petit peu, pas à s'améliorer, mais à...
Oui.
Parler des choses,
contenu.
Voilà, exactement du contenu, ce qui a d'ailleurs un petit peu modifié le parcours du théâtre parisien aussi. Trouver vraiment le bon boulevard devient assez compliqué. Il y a beaucoup de petites choses, mais il faut quand même...
Courteline.
Oui,
mais ça peut être des pièces en costume chez vous.
Mais bien sûr, on accueillera encore des classiques, mais avec une certaine modernité. On ne peut pas jouer ça comme on le jouait... il y a 20 ou 30 ans.
J'aimerais peut-être avoir quelques noms d'artistes français qui sont venus, d'acteurs français qui sont venus dans les années passées ou qui viendront encore cette année-ci,
par exemple,
parce que j'en connais quelques-uns, mais je crois que c'est assez fabuleux d'avoir ça chez soi, en fait, à côté de chez soi. C'est génial.
Oui, c'est assez génial. Et M. Gozoin, ici présent, m'a toujours rappelé, c'est moi qui ai fait venir Francis Perrin, Jean Marais, c'était déjà
Michel
des
Morgan.
Grands noms, Michel Morgan. J'ai fait venir Daniel Darieux quand même aussi, pour aller chercher des gens comme ça. Arditi nous a pas boudé, mais c'est vrai que c'était des spectacles, il faut dire les choses telles qu'elles sont, on a 665 places, il faut quand même qu'il y ait une rentabilité, il y a des cachets qui sont élevés, on s'arrange pour avoir des spectacles de qualité mais à moindre prix, et au bilan, on rentre dans nos frais et on fait quelquefois un petit bénéfice, mais on a eu des gens comme Richard Berry, j'ai fait venir, tiens, je suis très content de ça, Philippe Noiret aussi, assez incroyable.
Jean-Pierre Marielle.
Assez incroyable, Jean-Pierre Marielle, pour les citer.
Et bientôt Arditi quand même.
Jean Rochefort.
Il va revenir.
Et tout bientôt, on annonce Arditi pour 2022 et on annonce même Neil Arostrup et Berléand, grosse
grands acteurs.
Mais grand acteur certainement, mais aussi, il ne faut pas dénigrer les petits spectacles. Il y a 3500 grands acteurs, mais qui n'ont pas l'aura de ces vedettes qui étaient peut-être moins nombreuses à l'époque, mais qui étaient sollicitées.
Et donc, je pourrais peut-être ajouter une chose. André, depuis quelques années, va aller à Avignon chercher et faire venir des troupes françaises, souvent, qui se sont découvertes à Avignon. Donc c'est aussi des succès d'Avignon.
Oui, des petites pépites d'ailleurs.
Et ça c'est tout à fait formidable, Avignon. Hein. Il y a les choisir, effectivement. Oui. Les pièces à Avignon, c'est quelque chose de génial.
Ah, mais
parce qu'il y a un choix incroyable.
J'en ai les poils qui se dressent. Hein. Oui, c'est vraiment, c'est un partage incroyable, tout le monde est comme ça. Et alors c'est très amusant parce que on pourrait imaginer que les horaires sont faits pour que les gens soient en salle au même moment, mais non, ça grouille tout le temps, et les salles sont pleines, et vous avez des théâtres qui jouent 5 à 6 représentations de spectacles différents. Il y a une vidéo qui court sur Facebook qui est assez amusante, où on voit une journée filmée en accéléré, et il y a 7 spectacles, 7 décors, 7 publics qui entrent, 7 publics qui sortent.
C'est de ceux qui n'ont pas encore connu cette ruche, parce que c'est une véritable ruche, Avignon, eh bien, on vous encourage tous à aller en juillet à Avignon pour voir ce festival, c'est exceptionnel. Et d'ailleurs, je pense que BXFM reviendra certainement un jour sur, et fera des émissions spéciales sur Avignon, peut-être même en direct, pourquoi pas, puisque nous sommes la radio de l'Europe et donc on aime ce qui se passe en France, évidemment, comme la commune d'Auderghem qui fait venir les acteurs français chez nous. Alors, vous aviez sans doute déjà envie de vous balader ce week-end comme but de promenade pour aller voir le patrimoine de nature, de culturel avec le Rouge Cloître ou autre à Auderghem. Maintenant, vous savez que vous allez vous balader pour autre chose ce week-end, c'est peut-être aller chercher la maison de vos rêves, l'habitation de vos rêves à Auderghem. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a en plus aussi la culture, mais c'est une commune géniale manifestement. On est très content de découvrir comme ça cette commune. On revient dans quelques instants et peut-être pour mieux connaître la personnalité, le côté plus intime de Didier Gossoin, parce que ça nous intéresse aussi. Un bourgmestre, c'est d'abord un homme, un être humain au service des autres. Voilà le moment tant attendu. Nous avions promis d'apprendre à mieux connaître, à rentrer dans la personnalité effectivement de Didier Gossoin et aussi connaître sa vision d'avenir, puisque Auderghem en 2030, que va-t-il se passer? Quelles sont les utopies que Didier Gossoin a encore, Paul?
On va le savoir parce qu'on demande à chaque bourgmestre sa vision pour 2030. Auderghem 2030, c'est quoi, Didier Gossoin, pour vous, dans votre rêve le plus fou?
Ben, c'est terminé ce pourquoi je me suis engagé en politique, c'est-à-dire lutter contre la bruxellisation de cette ville. Bruxellisation qui a vu la destruction de patrimoine, on a tous évidemment la maison du peuple, mais aussi la construction de ces aberrations que sont des autoroutes de pénétration dans la ville, etc. Et donc, mon rêve, c'est qu'on ait enfin une ville apaisée, une ville où on a le goût de vivre, de bien vivre, en sécurité, dans un cadre qui est un cadre accueillant, sécurisant. On a les atouts pour ce faire, on vous l'a dit, il y a une pression automobile qui égratigne en tout cas cette image rose d'Auderghem. Donc mon rêve en 2030, c'est d'avoir cette ville apaisée et qu'on cesse cette espèce d'extension de la ville qui consiste surtout à miter et à manger nos espaces naturels en dehors de Bruxelles. Or, l'environnement de demain, ce sont des villes plus agréables à vivre, plus concentrées, où on peut offrir des services, où il ne faut pas prendre 30 ou 40 km ou 50 km en voiture pour aller conduire ses enfants, aller à la crèche, aller au théâtre, au cinéma, mais une ville où, on retrouve le goût d'y être et pas l'envie de la fuir.
Et vous y croyez alors ?
Ah ben oui, j'y crois parce que c'est l'avenir l'avenir est urbain. L'avenir, ce n'est pas aller tous nous retrancher dans le fin fond des bois. L'avenir est urbain, nous sommes des êtres sociaux, on a besoin de culture, on a besoin de restaurants, et tout ça se trouve dans les villes. Et il ne faut pas faire des dizaines de kilomètres pour pouvoir, avoir ces services-là. Et donc, oui, on doit repenser la ville de cette manière-là et ne pas une ville désarticulée comme, hélas, Bruxelles l'a été, et on le constate, avec l'extension en dehors de la ville, c'est essentiellement parce que des gens ont voulu fuir la ville, parce qu'elle n'offrait pas le confort et les attentes souhaitées.
Donc une ville de proximité, qu'est BXFM aussi, une radio de proximité. Les gens ont besoin, dans ce monde qui devient de plus en plus impersonnel et envahissant d'une certaine manière, eh bien, une ville, sa commune, son bourgmestre, de proximité, c'est ça qui rassure, qui sécurise aussi les gens. Alors, cet homme de proximité, Didier Gossoin, Il aime faire quoi quand il est en dehors de sa fonction? Il aime se balader, faire du vélo, manger dans un bon restaurant,
écrire,
faire du sport?
Un peu tout ça. un peu tout ça. Resto, certainement. Marcher, oui, je ne suis pas un grand sportif, donc oui, marcher, ça je fais. La cuisine, j'adore faire la cuisine. Je prétends être un très bon cuisinier.
Ah. Ben voilà peut-être un sujet pour une prochaine émission. Ah, c'est au fait d'inviter les bourgmestres à nous cuisiner quelque chose.
Oui, parce oui. Ils ou autre chose que la politique.
Qui aiment bien cuisiner.
Ou vous d'écrire des recettes qui sont tout à fait originales et goûteuses au demeurant. Écrire aussi, j'ai déjà écrit 2 bouquins, je continuerai lors de ma retraite politique à réanimer un groupe de réflexion. J'ai une autre inquiétude, c'est pas l'avenir, c'est l'avenir des villes, je l'ai dit, mais c'est l'avenir de la démocratie qui est menacée, on le voit aujourd'hui, menacée par les populismes, les extrémismes, et donc je voudrais faire prendre conscience aux citoyens que si on perd notre modèle de démocratie, on ne saura jamais faire face aux défis qui nous attendent, défis énergétiques, défis de mutation technologique, etc., et qui vont imposer de rééquilibrer la notion de liberté individuelle et de liberté collective. Et donc ça, c'est une réflexion que je mènerai dans les mois et les années à venir.
Si j'ai bien lu le soir, vous allez quitter le Majorat d'ici quelques semaines, on peut le dire comme ça. Ça va être un vide dans votre...
Ça va être un vide. Ah oui, bien entendu, c'est un choix difficile et douloureux, mais j'ai dit qu'il faut que les hommes politiques, à un moment donné, cèdent la place à des plus jeunes. Donc moi, je respecte ce que j'ai toujours dit. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres hommes politiques ou femmes politiques qui le disent et puis qui finalement s'accrochent jusqu'à la dernière limite. Ça ne sera pas mon cas, mais c'est douloureux, évidemment. Ça fait 45 ans que je suis au service de la commune d'Auderghem, donc pour moi, c'est pas simple de quitter, mais je le fais parce que je crois que c'est sain aussi pour la démocratie. Et puis, ça me permettra de réfléchir à des sujets qui sont peut-être plus intemporels, comme l'avenir ou la nécessaire remotivation de notre démocratie.
On connaît votre successeur ?
Oui, bien entendu, ce sera Madame Sophie DeVos qui fera qu'il okay. y aura une femme de okay. plus. Et c'est aussi une chose intéressante, c'est le renouvellement par la diversité.
Sophie DeVos, que nous avions découvert d'ailleurs il y a quelques années avant les élections communales, où nous l'avions invitée, que nous avions trouvé une personnalité intéressante d'Auderghem, effectivement, déjà. Donc vous aurez peut-être un peu de temps, Dîner Gossoin, peut-être pour venir animer une petite émission régulière sur des projets d'avenir ou sur l'idée de la démocratie, et pas seulement l'idée, mais des choses concrètes qui est fertile. Effectivement, pour réconcilier ce que nous voulons faire dans notre mission en tant que BXFM, eh bien, effectivement, nous voulons aussi réconcilier la raison de ces émissions ici pour démystifier toute une série de choses par rapport à ce populisme et les fake news qui peuvent exister.
Et dans le courant du mois de décembre, je lancerai mon projet Démocratie 21, D21. Pourquoi Démocratie 21 ? Parce que je pense que ce sera le grand débat au XXIe siècle, c'est l'avenir de nos démocraties.
Eh bien, on voit quelqu'un de passionné, effectivement, passionné, et en quelques mots, vous résumeriez effectivement Didier Gossoin avec quels adjectifs ou quelques verbes? Qu'est-ce que vous choisiriez?
C'est difficile de parler de soi. Un être impatient, certainement, qui veut sans doute aller trop vite, sans doute. Mais je crois quelqu'un qui est responsable en matière de gestion, et c'est important aussi, la responsabilité dans la gestion publique, parce que c'est aussi une des failles que nous connaissons aujourd'hui, de ne pas toujours avoir géré correctement nos finances publiques, et on voit combien ça nous pèse actuellement.
Et ce qui met d'ailleurs en danger l'idée de la démocratie, absolument, l'image de la démocratie, absolument, quand on voit que la gestion n'est pas toujours évidente. L'être humain, le citoyen, est aussi au centre de vos préoccupations, manifestement?
Ben oui, et c'est la raison pour laquelle je me suis battu pour avoir un 4e mandat ministériel autour de l'emploi, autour de la formation, parce que j'estime que c'est aussi un des grands enjeux. Il y a une mutation technologique qui se prépare. Si on n'accélère pas les politiques de formation, de qualification, on risque d'avoir des milliers, des dizaines de milliers de gens qui seront en panne de la société, avec tout ce que cela peut représenter comme danger.
Bien, Didier Gossoin, merci beaucoup. Paul Grosjean, merci
un
beaucoup
homme,
aussi.
Didier Gossoin, un homme fidèle à ses idées, à ses convictions et à ses valeurs, ça on peut le dire aussi.
Tout à fait, et on voit aussi que M. Bassichet, j'avais dit juste, oui. Bassichet nous a apporté aussi un rayon de soleil, effectivement, avec la culture qui a illuminé cette émission aussi, avec tous, avec tous ces acteurs qui nous font rêver depuis toujours, ces acteurs parisiens, ces acteurs français. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission, et vous êtes les bienvenus quand vous voulez, et nous annoncerons bien sûr aussi tout ce qui se passera au Centre culturel, parce que c'est une merveilleuse aventure, la culture. Nous nous y joignons. À très bientôt.